Ce qu'on entend, c'est un concerto de Handel qui a été enregistré par Radio-Canada, l'éditorium du Plateau, en février 1958. Ce qui est étonnant dans cette chose-là, car c'est étonnant, à l'époque, Radio-Canada archivait pas les concerts. Enregistrait, parfois, souvent même, enregistrait les concerts, mais ne les archivait pas. Or, il y a quelques enregistrements qui se sont rendus, c'est quasiment un miracle, jusqu'à George Nicholson, vous connaissez, ancien animateur à ICI Radio-Canada, qui est musicologue, et qui aime beaucoup, beaucoup fouiller et trouver des choses, et l'histoire de ces concerts inédits, vraiment inédits, là, de Radio-Canada, ça vaut le détour. Bonjour, George Nicholson.
Bonjour, René, comment allez-vous?
Moi, je vais très, très bien. Vous aussi, je sais, car on a méméré un peu avant d'enregistrer. Ces enregistrements ont fait surface de façon vraiment surprenante. Racontez-moi.
C'est un peu un petit miracle et qui, je sais pas si vous avez lu Le Devoir samedi dernier, Christophe Huss faisait le panégyrique d'un restaurateur sonore en le comparant au meilleur au monde et en disant que finalement c'était lui qui était le meilleur. Et c'est mon ami Yves Saint-Laurent que je connais depuis 25 ans. Et c'est un type qui a une oreille absolument formidable. Et donc, Christophe Huss le connaissait, en avait déjà parlé dans Le Devoir, et il reçoit un message de Huss qui lui disait « Écoute, il y a un monsieur qui a une boîte de bandes magnétiques, et puis il veut s'en débarrasser, et moi, je sais pas trop quoi en faire, écoute, va donc voir ce que c'est. » Alors, Yves est allé chez le monsieur, et le monsieur lui dit « Mon père collectionnait, mon père enregistrait des concerts de la CBC, de Radio-Canada, donc, et puis, là, ma femme me dit « Écoute, n'écoute plus ces bandes-là, c'est fini. Alors pourquoi tu mets pas ça aux poubelles? Alors plutôt que de les jeter aux poubelles, il les offrait à Huss, qui les a passés donc à Yves Saint-Laurent. Et Yves Saint-Laurent m'appelle en disant, écoute, il y a ça, viens avec moi pour essayer de passer à travers tout ça. Et bon, le monsieur avait mentionné qu'il y avait du Bernstein, qu'il y avait différentes choses. Et là, je vois Montréal, Igor Markevitch, Montréal, Rostropovitch, Montréal, Leon Fleischer, Montréal, Charles Munch. Et là, je deviens absolument fou. Je fouille dans les archives de Radio-Canada. Il n'y a rien. Ils se sont bel et bien... On entend l'annonceur. Donc là, on ne peut pas se tromper. C'est pas un pirate, un faux pirate. On entend l'annonceur qui dit « And now Mr. Markevitch walks on the stage of le plateau, etc. » Et là, enfin, c'est un peu comme de trouver le Saint Graal. J'exagère un peu, je sais. Là. Mais c'est de penser que le seul témoignage que nous ayons de l'OSM qui a été au plateau de 1935 à 1963, le seul témoignage que nous ayons était dans cette boîte qui a été sauvée par cet homme qui a pensé à les proposer à Huss, qui lui les propose à Saint-Laurent, et moi je vous les propose aujourd'hui.
Oui, mais vous dites de ce Saint-Laurent, qui n'est pas le Y Saint-Laurent que l'on connaît, le couturier, mais vous dites de lui qu'il fait de la haute...
C'est le même nom, mais lui, Saint-Laurent, le couturier s'appelle S-A-I-N-T. Le Saint-Laurent dont je vous parle, il s'écrit S-T, et Laurent.
Ah, voilà la différence, mais il fait, dites-vous, de la haute couture sonore. Comment vous décririez ça, la haute couture sonore?
C'est-à-dire que Yves Saint-Laurent, enfin le nôtre, si j'ose dire, a commencé à s'intéresser. D'abord, c'est un fanatique du pianiste Sviatoslav Richter. Je pense que même ce que Richter n'a pas enregistré, il l'a trouvé. C'est la collection la plus complète au monde. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, parce qu'il y avait un colloque Richter, on s'était rencontrés là. Et là, peu à peu, il a ouvert son spectre de plus en plus à d'autres pianistes, à d'autres orchestres. Et il s'est tout à coup intéressé aux 78 tours. Et là, de prendre différents types d'aiguilles, de mettre un différent poids, il y a des 78 tours qui sont enregistrés à 80 tours, 82 tours, etc. Et de tout, de recentrer les disques pour ne pas que ça sonne faux, enfin, il a développé tout un art absolument, mais fascinant, d'aller chercher dans les sillons la musique qu'on y avait enfouie. Et ouais. il a une oreille telle qu'il prend les mêmes disques que les autres ont fait. Il y a des gens qui gagnent leur vie depuis toujours avec ça. Et lui arrive à garder toutes les harmoniques. Et bien sûr, il y a un fond sonore plus important que quand on met un filtre tout court. Mais il a cette oreille d'aller chercher la musique au-delà des bruits. Alors finalement, on n'entend plus les bruits, on n'entend que la musique.
Mais c'est absolument formidable. Mais à l'éditorium du plateau, moi, j'en ai un souvenir d'enfance parce que Wilfrid Pelletier donnait, quand j'étais petit, des concerts, les matinées pour la jeunesse, et c'était absolument étonnant. Donc, je me souviens très bien de cet auditorium-là, mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Parce que l'OSM, il jouait, il donnait des concerts. Est-ce que c'était, moi c'est loin dans ma tête, est-ce que c'était potable? Est-ce que c'était supportable en termes d'environnement sonore pour reproduire ça? Pour faire des concerts là?
Ben, écoutez, ce sont des salles qui n'ont pas été conçues pour de la musique symphonique. C'était un peu petit, donc le son saturait facilement. Et non seulement il saturait au sens où tout à coup ça devenait trop fort, mais en plus l'acoustique était sèche. Donc le son voyageait mal. Il n'y avait pas. Si vous allez à la Maison symphonique maintenant, la première pièce que la Maison symphonique a jouée, c'était Erbarmedich de Claude Vizier. Et ça commençait simplement avec un son tout petit. Et le son, on l'entendait parfaitement comme si ça avait été amplifié, parce que l'acoustique de la Maison symphonique est formidable. Mais à l'autre salle, il aurait fallu vraiment souffler bien fort pour qu'on l'entende, ou alors on aurait entendu un petit bruit, un peu comme à la salle Wilfrid Pelletier d'ailleurs. Wilfrid Pelletier, si maintenant, quand on entend un orchestre y jouer, on prête l'oreille, on a presque envie de s'avancer, parce que le son est si lointain. Alors le plateau et la salle Wilfrid Pelletier, qui était quand même une amélioration par rapport au plateau, c'était pas ça qu'il fallait pour un orchestre symphonique international. Et c'est pour ça que voilà toute l'histoire en peu de mots.
Alors, on va écouter, Georges, un extrait d'un concerto, du concerto pour violoncelle de Schumann, qui est interprété par un quasi-inconnu, Rostropovitch. Oui. Georges Nicholson, Rostropovitch, c'était quand même le violoncelliste le plus connu du 20e siècle, hyper, hyper connu. Et je me demandais comment on peut expliquer qu'il y ait tant de grands, grands musiciens, de grands chefs aussi, qui soient venus jouer à Montréal. C'est pas la pas du gain, sûrement?
Oh non, mon Dieu, non, parce que les honoraires de Montréal ont toujours été assez, parcimonieux, pourront-on dire. Non, c'est que l'Orchestre symphonique de Montréal a été fondé, la Société des concerts symphoniques, comme ça s'appelait, a été fondée parce qu'il y avait le Montreal Symphony qui n'engageait pas beaucoup de Canadiens-Français, comme on disait à l'époque, et ils ne jouaient pas d'œuvres canadiennes-françaises. Et là, Mme Athanase David s'est dit, ça va faire, on fonde notre orchestre, et c'est comme ça qu'est né l'orchestre. Et au début, c'était le premier concert, c'était Rosario Bourdon qui dirigeait, avec comme soliste Léopold Morin. Donc, deux bons Québécois. Hein, c'est... Et puis, donc, c'était vraiment d'afficher la volonté. Et puis, peu à peu, Pierre Béic a pris le contrôle de l'orchestre et est devenu directeur général. Et là, il s'est dit, c'est beau d'engager des Québécois, mais il faut développer un instrument qui va justement les mettre en valeur au niveau international. Et là, il s'est mis à engager... Il avait un charme fou, Pierre Béic. Je ne sais pas si vous l'avez connu.
Oui, un charme fou, c'est tout à fait ça.
Ah non, mais c'était quelqu'un qui pouvait vous convaincre de n'importe quoi. Oui. Il était suave, c'était une éminence grise. Et donc, il rencontrait les plus grands chefs. Lui, il voyageait beaucoup, il avait une fortune de famille. Et puis, il rencontrait Bruno Walter, il l'invitait à Montréal, Bruno Walter est venu. Quand Bernstein a fait à peine ses débuts à New York, Bernstein est venu à New York. Il a invité Joseph Cripps, il a invité... On a eu Clem Perrer, qui était chef officiel à Montréal. Bon, il s'est cassé une jambe à Dorval, mais ça, c'est une autre histoire. On a eu ce qu'il y a eu de meilleur dans la tradition européenne et américaine. Et Charles Munch avait dans son contrat, je ne dirige pas quand je suis à Boston, ailleurs qu'à Montréal, c'était dans le contrat. Alors, c'est vous dire la force de Béic qui a imposé, qui a imposé Montréal à des chefs qui ne seraient pas venus et à des solistes qui commençaient. Rostropovitch, quand il joue là, il a 36 ans. Hein, c'est ses premières sorties à l'Ouest. Léon Flacher, le concert qui est le concerto de Mozart qui est là-dessus, qui est formidable. Eh ben, il a 35 ans à ce moment-là. Et donc, il les attrapait en début de carrière, les plus prometteurs, les meilleurs, parce que Béic était branché sur tout ce qu'il y avait à New York et à travers le monde. Alors, c'est vous dire la chance qu'on a eue de l'avoir.
Oui, tout à fait. Et ça a beaucoup aidé l'orchestre, ça, la qualité de l'orchestre. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. Il y a une famille de musiciens, la famille Masella, qui est très, très présente. Et si je me disais, si on était dans District 31, la famille Masella serait sûrement une famille de mafieux. Mais c'est vraiment pas le cas. Ils étaient nombreux et tous excellents. Ils ont participé à l'évolution de l'orchestre, ces gens-là.
Ben, ils ont participé, c'est sûr. Écoutez, dans les concerts que nous avons, là, qui ont été récupérés donc par Christophus et Yves Saint-Laurent, ce sont des concerts de la première saison à la Place des Arts. Donc à la grande salle, qui ne s'appelait pas encore la salle Louis-Pelletier, ça s'est appelé la salle Louis-Pelletier en juin 66. Donc là, ça s'appelle encore la grande salle. Et les Masella, dans l'orchestre sont là, il y a 7 Masella. Si on regarde, et en plus, je dirais même qu'il y a un 8e Masella, c'est la harpiste qui a épousé un Masella, hein, Madame Weldon. Elle a épousé un Masella. Donc, si on voulait, il y avait vraiment cette mafia Masella. Mais une chose que vous avez mentionnée dans votre question, c'est la qualité de l'orchestre. Ouais. Si on écoute bien, on a l'impression que Charles Dutoit, à qui on doit beaucoup, a mis au monde l'orchestre. Il l'a mis sur la map, comme vous voulez, le maire Drapeau. Ouais, mais l'orchestre, ce qu'on vient d'entendre avec Rostropovitch, vous avez entendu comment les bois rutilaient, à quel point les cordes étaient solides dans le Handel d'ouverture, à quel point finalement l'orchestre avait fière allure. Il existait avant, si on veut. Il n'avait pas cette cohésion que Dutoit lui a donnée et que les circonstances lui ont donné aussi, parce que le politique s'en est mêlé encore plus quand le maire Drapeau a décidé que ça allait être une carte de visite partout. Oui. Comme on dit, ça aide. Et donc, l'orchestre était déjà très bon, même de très bon à excellent, même à cette époque-là.
Bon, Georges, on va se quitter sur une pièce, sur un concerto pour piano de Ravel, mais avant, je voudrais savoir, ces enregistrements-là qui existent maintenant, puis ça peut peut-être faire un beau cadeau de Noël, ça, comment on peut se les procurer? C'est disponible où et comment?
Écoutez, si vous avez un crayon, ça se retient simplement à l'oreille. 78 expériences, sans rien, 78 expériences.com. Vous allez là-dessus, et là, vous faites Orchestre symphonique de Montréal, ça vous apparaît, vous pouvez commander directement. Donc, 78expériences.com, ça peut pas être plus simple. Et effectivement, quand en pleine période de pandémie, on ne peut pas aller entendre l'orchestre, on entend personne, au moins d'avoir l'Orchestre symphonique de Montréal chez soi, dans quelque chose qui a été rescapé des poubelles, et finalement qui aurait pu tomber dans l'oubli, comme toutes les archives de Radio-Canada, eh bien, mon Dieu, il y a de quoi se réjouir et de souhaiter joyeux Noël au petit Jésus.
Indeed. Ben merci, merci Georges Nicholson. Et donc
merci,
on va se quitter sur...
René. Toujours un bonheur.
On va se quitter donc sur un concerto, le concerto pour piano de Ravel. C'est ça, c'est interprété par la pianiste Nicole Henriot-Schweitzer, pardon. Ça a été fait dans la grande salle, donc de la Place des Arts, en mars 64. Merci d'avoir été là, Georges.
Un plaisir. À bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez Culture Club avec René Aumirois.